C'est intéressant comme pendant cette année électorale est revenu dans le débat un événement politique qui était un peu tombé dans les oubliettes de l'histoire. Le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Alors aujourd'hui, on se le rappelle parce qu'on s'aperçoit que ce qui a séparé à l'époque les partisans du oui et du non au traité est toujours présent, voire permet de comprendre comment se restructure le champ politique. Ok, mais ce débat sur le TCE, moi je l'avais pas du tout oublié, et pour une toute autre raison. Je ne l'ai pas oublié parce que depuis 15 ans que je travaille sur les questions numériques, tout le temps, je vois ressurgir ce moment de 2005 comme un moment fondateur. Pour caricaturer un peu, on pourrait dire que c'est la première fois où Internet gagne contre les politiques et les médias.
Xavier Delaporte.
Alors, si on voulait affiner un peu, on dirait que c'est le moment où les hommes et femmes politiques s'aperçoivent qu'il y a un truc qui s'appelle Internet, dans lequel se fabrique une opinion qui va pas forcément dans leur sens. C'est le moment où les médias s'aperçoivent qu'il y a un truc qui s'appelle Internet, dans lequel se produit autrement l'information. C'est le moment aussi où les gens s'aperçoivent qu'il y a un truc qui s'appelle Internet, dans lequel on trouve d'autres informations et dans lequel on peut discuter autrement de politique. Pour le dire vite, j'ai l'impression que notre web politique d'aujourd'hui, celui qui m'enthousiasme quand il est magnifiquement démocratique ou qui m'afflige quand il est complotiste ou instrumentalisé par les politiques, j'ai l'impression que ce web politique est né en 2005.
Le code va changer.
Alors, j'ai eu envie d'y revenir. Notamment parce que je connais le témoin idéal. Un type qui a été au cœur de tout ça, mais alors vraiment au cœur de la machine. Il s'appelle Benoît Thiolin, c'est une figure du numérique français. Il a 50 ans, il a monté une boîte qui s'appelle la NetSquad, qu'il a fini par revendre. Il a dirigé le Conseil National du Numérique. Il a été un des acteurs majeurs de la campagne de Ségolène Royal en 2007. Mais en 2005, il était aux premières loges parce qu'il travaillait au SIG, le service d'information du gouvernement. Alors, le SIG est rattaché au Premier ministre. En gros, c'est l'agence de communication du gouvernement. Et il a trois missions. Informer les citoyens de l'action du Premier ministre, ok. Coordonner la communication du gouvernement. Et c'est ce qui m'intéresse un peu plus pour mon histoire, analyser l'évolution de l'opinion publique. Alors, 2005, Benoît a 37 ans. Il a fait Sciences Po. Il a tenté et raté l'ENA. Il a travaillé à l'ambassade de France à Jakarta, déjà un peu sur les technos, et ça fait quelques années qu'il bosse au SIG. Ce que je ne sais pas, en revanche, c'est ce qu'il faisait exactement là-bas. Donc voilà, j'ai commencé la discussion en lui posant cette question.
J'ai rejoint le SIG sous Jospin, à l'époque où on commençait à comprendre qu'il fallait s'occuper un petit peu plus de son site internet et de mieux coordonner en fait ce qu'on appelait les .gouv.fr. Et donc je me suis occupé de pas mal de choses, de faire entrer un peu le web marketing au sein de la communication digitale du gouvernement. Je me suis occupé de faire une plateforme de gestion de contenu qui soit faite en open source. Je me suis occupé d'essayer de faire un peu plus de vidéos. On a organisé évidemment des chats qui étaient des énormes moments, voilà. Et puis voilà, les années ont passé.
Les années ont passé, donc, et sont arrivées les présidentielles de 2002. Jospin n'est pas au second tour, c'est le Front National qui l'atteint pour la première fois de son histoire.
L'onde de choc, Jean-Marie Le Pen, sa présence au second tour met la France à la une des journaux du monde entier. À gauche comme à droite, un front républicain est en train de se constituer. Les Verts, le PC, le PS, l'UDF et Démocratie Libérale appellent officiellement à voter pour Jacques Chirac.
Chirac est donc réélu à la présidence de la République, Jean-Pierre Raffarin est nommé Premier ministre, et Benoît, lui, il reste au SIG. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant ce qu'il y fait ?
J'avoue qu'à ce moment-là, moi, j'avais un peu de frustration parce que c'est quand même une époque où le numérique était vraiment... On parlait pas de numérique, d'ailleurs, on parlait de multimédia. J'étais responsable du département multimédia. J'avais quand même une petite équipe d'une dizaine, quinzaine de personnes que j'ai fait grossir progressivement, dont je me suis pas mal évertué à lui donner un rôle de coordination des webmestres de l'ensemble du gouvernement. Tous les mois, je réunissais tous mes homologues, donc j'avais mon petit conseil des ministres. Et alors là, j'avais ce que les ministères, avec leur culture, leur sociologie, aussi leur prise de conscience de ce qu'était le web et de l'importance qu'ils pouvaient avoir ou pas, ils nous envoyaient leurs responsables. Alors, au Quai d'Orsay, il y avait une espèce de diplomate qui parlait vaguement avec un accent anglais, qui avait sa chevalière, qui était un type délicieux d'ailleurs. Dans d'autres ministères, c'était parfois parfois un peu une stagiaire qui passait par là et puis à qui on avait donné le soin de s'occuper de sites web dont on comprenait pas très bien à quoi ils servaient. Donc je les réunissais tous les mois et on essayait tant bien que mal de faire en sorte que ce soit pas uniquement chaque ministère qui dans son coin gère sa communication digitale, mais qu'on essaie un peu plus de les coordonner, de faire en sorte qu'on mette les moyens en commun, qu'on commande pas à 25 agences différentes des sites web, qu'il y ait une charte unique, et Dieu sait que ça a pris du temps pour l'imposer. Toutes ces choses-là ont été un peu mon quotidien pendant 3-4 ans. Et puis...
Wow, attends. Benoît a parlé au tout début de sa tirade de frustration. Et puis après, il est parti sur tout autre chose. Alors, je voudrais qu'on y revienne. Parce que ça me rappelle un truc. Il se trouve que, en 1999, j'ai fait la campagne des élections européennes au cœur d'une machine plus brinque-ballante et plus rigolote en même temps que le SIG. Je veux parler des Verts. Il faut se souvenir, hein. Danny Cohn-Bendit, qui était tête de liste des Verts, était de retour en France après 30 ans d'exil allemand, et bon, ça excitait un peu. Et donc un jour, est arrivé au siège des Verts un couple de jeunes geeks. Ils ont expliqué à Danny qu'il fallait mener une campagne aussi sur le web, que c'était hyper important, que ça allait toucher un public de jeunes qui se désintéressaient de la politique, etc., etc. Alors on a fait plein de réunions, eux étaient prêts à coder le site eux-mêmes, à en faire le design, etc. Mais il fallait les aider un peu, notamment en leur fournissant la matière. Or, ces deux jeunes, ils ont été, mais alors, catastrophés par l'inintérêt des Verts, et de Cohn-Bendit lui-même, pour ce qu'ils faisaient. Je crois que la frustration, c'est un terme vachement poli pour évoquer ce qu'ils ont ressenti. Parce qu'en plus du désintérêt, il y avait un choc culturel. Je me souviens que eux voulaient qu'on mette plein de trucs en ligne. Par exemple, les discours de Danny, qui improvisait tout le temps et avait pas du tout envie qu'on voit qu'il improvisait. Mais aussi des documents internes des Verts, qui avaient pas du tout envie qu'on voit à quel point ils étaient pas d'accord avec Danny. Bref, dans mon souvenir, ça s'est pas bien terminé du tout. Alors, certes, c'était en 1999. Mais pas sûr que ça avait beaucoup changé quelques années plus tard. Parce que je me souviens qu'en 2002, à l'époque, je travaillais à France Culture. On m'avait envoyé dans le fin fond de la France faire des reportages sur la manière dont la télévision et l'obsession sécuritaire de certains journaux télévisés avaient pu nourrir le vote FN. Ce qui se passait sur Internet à l'époque, ça n'existait pas. Ça n'était pas dans le viseur. J'aimerais donc que Benoît, qui lui voyait ça du côté politique, détaille un peu ce qu'il a appelé sa frustration.
Une frustration que j'ai eue assez vite. Ça a été de constater que les politiques et les décideurs, au fond, voyaient le numérique, enfin le multimédia, que sous l'angle de la communication. Et dans la communication, une toute petite chose. Il y avait évidemment les grandes campagnes qui passaient à la télé ou qui étaient relayées dans la presse. Et le web était vu vraiment comme un truc de petits jeunes, bon, un peu gadget, fallait bien, pour faire jeune, s'en occuper. Mais on n'y voyait pas forcément un énorme avenir.
Ce que raconte Benoît, là, ça me rappelle un truc un peu antérieur, mais qui m'évoque ce qu'il dit du rapport des politiques à Internet. C'est un reportage de France 2, daté de 1998, je crois, et il est cultissime.
La France doit continuer à rattraper son retard en matière d'informatique. On sait le chef de l'État passionné par ce sujet. Eh bien, le président de la République, Jacques Chirac, vient de se doter, depuis ce matin, d'un site Internet sur lequel on peut s'adresser à lui directement.
Sur le palais de l'Élysée, souffle un vent électronique, grâce à Internet. C'est le site de la présidence, avec la Marseillaise, si vous le souhaitez, pour commencer. Mais surtout, il y a cette petite icône qui va vous permettre d'envoyer votre courrier. Il suffit de rentrer ses coordonnées, nom, prénom, profession, adresse normale et adresse électronique. Ensuite, à vous le clavier de l'ordinateur. Depuis hier 13h, 200 lettres sont déjà arrivées. Pour écrire au président Jacques Chirac, notez bien cette adresse électronique. Délai de réponse de 10 à 15 jours, mais sachez que pour éviter tout piratage, la réponse vous sera envoyée par courrier normal, une enveloppe et un vrai timbre.
Donc, il y a ça d'un côté, et puis, de l'autre côté, il y a des gens, dont Benoît fait partie, qui commencent à voir autre chose dans le web.
J'avais la chance au SIG d'avoir, juste à côté de mes bureaux, le département études. De plus en plus, j'étais assez frustré au fond que quand on parlait stratégie, on me pose pas la question de ce que, vu du numérique, vu du web, on pouvait éventuellement avoir à dire. Et donc, il m'a fallu plusieurs années pour que je finisse par expliquer que, certes, ils avaient des méthodes scientifiques aux études, qu'ils interrogeaient parfois plusieurs centaines de personnes, que c'était évidemment des méthodologies qui étaient éprouvées scientifiquement depuis très longtemps, mais que bon, moi j'avais quand même dans mon radar des millions de contenus qui étaient postés, et que c'était quand même un peu bizarre que ces espèces de continents de production d'informations qui étaient là sous mes yeux ne les intéressent pas. Et que sous prétexte que le monde académique ne s'en était pas encore complètement emparé, mais ça a souvent été ça le web, la pratique a été en avance au fond sur les canons académiques et scientifiques, et donc du coup j'ai eu beaucoup de mal à plaider ma cause.
Intéressant ça. La réticence à considérer le web comme un lieu où l'on peut regarder comment se fabrique l'opinion, c'est pas simplement une réticence bêtasse et générationnelle, c'est aussi une réticence méthodologique. En 2005, on n'a pas les outils scientifiques pour voir ce qui se dit dans le web, pour en tirer des tendances ou même des conclusions un peu assurées. C'est important de s'en souvenir pour la suite de notre histoire. Bon, néanmoins, entre 2002 et 2005, le web croît énormément. Et ce que raconte Benoît commence à intéresser un peu.
Donc j'ai fini par convaincre que c'était quand même un peu idiot que leur malheureux questionnaire de 20 questions qu'ils ont envoyé à 800 personnes, que moi j'avais des milliers de contenus tous les jours qui étaient postés, on devrait quand même essayer un tout petit peu d'en faire quelque chose. Et évidemment avec un autre avantage, c'est que les sondages ça coûte cher, que c'est long à organiser, surtout à l'époque, parce que c'était les sondages par téléphone, etc. Alors que moi, j'étais capable de pouvoir en faire quasiment tous les jours et en temps réel. Et ça a été ça mon pari.
Ok, donc là, je comprends bien où en était Benoît quand mon histoire commence. Il a réussi à faire naître l'idée, au sein du SIG, que le web n'est pas simplement un outil communicationnel, mais aussi un espace où on peut essayer de voir, de manière encore empirique, comment l'opinion politique se fabrique. C'est déjà énorme et on va voir que ça va lui servir. Mais pour bien comprendre ce qui va se jouer autour du TCE, il faut examiner un autre aspect du problème. Quel est l'état du web français à l'époque? Qui était là? De quoi on parlait? Comment? Alors, je demande à Benoît de me dresser un panorama du web politique de 2005 pour mieux comprendre ce qui va se jouer pendant la campagne.
D'abord, c'est un monde qui est sans mobile. Faut pas l'oublier. Ça arrive à partir de l'iPhone, c'est-à-dire fin 2007 à peu près. Il n'y a pas non plus de réseaux sociaux. Facebook débarque après la présidentielle de 2007. Mais à l'époque, c'est un monde, en fait, qui est sans grande plateforme et qui est constitué pour l'essentiel, en fait, de sites internet. On est au début de ce qu'on appelle la blogosphère en 2005 et commence à y avoir des espèces de sites où des gens vont se mettre à produire un contenu de manière régulière et autour de ces contenus organiser un débat dans des files de commentaires qui succèdent aux contenus qui sont produits en gros par des experts autoproclamés puis assez vite validés par leurs pairs parce qu'il y a pas mal de gens et de communautés qui vont leur donner de la valeur, mais voilà, ça peut être tout et n'importe qui dès lors qu'il trouve son public et son audience et qui constitue sa communauté.
Ça, c'est la topographie. Mais c'est quoi les véhicules? Par quels canaux on communique les uns avec les autres à l'époque?
C'est aussi un web, en fait, on l'oublie, qui utilise des outils très simples, qu'on utilise toujours, mais dont on a perdu la valeur sociale, c'est le mail. On utilise énormément de mails dans nos échanges, on le fait donc sur son ordinateur, et on a énormément de listes de discussions. Tous les groupes, les ONG, les organisations politiques, toutes sont structurées la plupart du temps sur autour de ce qu'on appelle aujourd'hui des boucles, en fait, qui sont l'équivalent des boucles de Telegram, mais qui à l'époque étaient tout simplement des listes de discussion par mail. Et puis il y a les forums qui sont déjà très nombreux et qu'on retrouve sur énormément de thématiques qui vont du bricolage au loisir créatif ou autre, au cinéma, enfin voilà.
C'est dingue, tout ce que raconte Benoît me fait remonter plein de souvenirs. Mais alors, en revanche, j'ai une image assez imprécise de qui étaient les internautes de l'époque.
C'est quand même plutôt un outil, une technologie qui est utilisée par des jeunes. Et on va le découvrir aussi par ceux qui ont du temps et qui ont les moyens de s'acheter un ordinateur, c'est-à-dire aussi les personnes âgées, en fait. Et donc, on va avoir cette rencontre assez bizarre à cette époque-là.
Des jeunes et des retraités, plutôt CSP+. Évidemment, c'est une sociologie esquissée à grands traits, mais c'est assez passionnant. Alors, autre rappel très important fait par Benoît dans cette caractérisation du web de 2005.
Ce n'est pas parce que c'est un monde d'avant les plateformes de réseaux sociaux et de médias sociaux que ce n'est pas un web social. C'est déjà un web social. On est déjà dans le web 2.0 en réalité, il ne s'appelle pas encore comme ça. Mais il en est déjà les prémices pour une raison très simple, c'est qu'en fait, les gens, une des premières choses qu'ils ont faites quand on leur a donné ce moyen incroyable qu'est le web d'échanger de l'information, c'est d'abord en fait de discuter. C'est ça la découverte absolument incroyable. Et il faut se rappeler qu'à cette époque-là, toutes les grandes entreprises de contenu, américaines, européennes, cherchaient à vendre du contenu. Et les gens, en réalité, ne voulaient pas ça. Ils voulaient produire leur information et les échanger. Ça a été un web extrêmement horizontal à cette époque, et déjà un web social, mais un web social sans plateforme. Ça nous paraît complètement saugrenu aujourd'hui, mais pourtant, ça a été une réalité.
Ce rappel est essentiel, à mon avis, et à plusieurs titres. D'abord, on a oublié ce moment où tout, ou presque, était gratuit. Bien sûr, il y avait déjà de la publicité, etc., mais on rechignait à payer pour quoi que ce soit. Ensuite, et c'est encore plus important, hein, à mon sens, l'idée que le web a été social avant les réseaux sociaux. C'est important parce que ça dit que la sociabilité numérique n'a pas commencé avec les réseaux dits sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est que la sociabilité produite par les réseaux sociaux, avec tous les défauts qu'on lui connaît, n'est pas la seule possible. La preuve, il y a eu une sociabilité avant, et elle perdure d'ailleurs encore aujourd'hui dans certains de nos usages. C'est important parce que ça dit qu'il y a, inhérente au web, cette pulsion de la relation, du partage d'opinions, du partage d'idées, du partage d'émotions, et que c'est quand même vachement beau, et qu'on a tendance à l'oublier. Mais puisqu'on va être amené à parler de politique, cela dit, je pense qu'on parle politique depuis le début, je me demande si ce web de 2005 avait une couleur politique, justement.
Il y a eu les premiers activistes, on va dire, qui se sont évidemment d'autant plus saisis de ce nouvel outil et de cet environnement qu'ils n'avaient pas accès aux médias traditionnels et que c'est souvent des minoritaires. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on a énormément observé aux États-Unis, dans un contexte très particulier qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il va aussi peser d'ailleurs en 2005 dans la bataille référendaire, d'une certaine manière, en toile de fond, ça a été l'opposition à la guerre en Irak. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important en tournant des années 2000. Les outils sont déjà là. Mais il va y avoir un accélérateur de l'usage politique du web, et du web social en particulier, par les activistes américains ultra-minoritaires qui sont en opposition à la guerre en Irak de George Bush. Et on peut imaginer, si on se souvient bien, combien ils étaient minoritaires. Évidemment, ils n'avaient accès à aucun média, aucun. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés sur Internet. Et là, ils ont inventé des nouveaux usages, ils ont parfois inventé des nouveaux outils. C'est toute l'histoire de Move On, c'est toute l'histoire des mobilisations autour de listes de discussion. Là encore, on prend un outil qui était là et on va le façonner, en trouver un usage à des fins politiques. Et donc, tout ça va maturer aux États-Unis vraiment complètement sous les radars médiatiques. Et tout ça va déboucher en 2003 dans la première web campagne de l'histoire. C'est la campagne de Ward Dean dans les primaires démocrates.
Alors ça, j'avais complètement oublié. Cela dit, quand Benoît se met à en parler, tout à coup, il y a des bribes qui me reviennent en mémoire. George Bush Jr. a été élu en 2000. 3 ans plus tard commence la campagne présidentielle américaine et du côté démocrate, un mec se présente à la primaire avec un discours assez critique. Critique non seulement de l'intervention en Irak décidée par Bush, mais aussi de la mollesse des démocrates qui n'ont pas montré une folle résistance à cette intervention. Ce type, c'est Howard Dean, gouverneur du Vermont. Intéressant parce que Howard Dean n'est pas un geek, pas comme Al Gore, par exemple, qui avait lancé les autoroutes de l'information sous Clinton quelques années plus tôt. Mais Dean, il est bien conseillé, et notamment par un type qui s'appelle John Trippi. Je découvre son existence en lisant quelques trucs sur Dean, qui était un stratège politique proche des démocrates et qui, lui, était très intéressé par les nouvelles technologies et depuis longtemps. Et c'est lui, manifestement, qui a convaincu Dean du potentiel d'Internet pour mener sa campagne. Et de fait, ça a marché, parce que Dean a rallié auprès de lui une bonne partie de ces activistes numériques qui s'étaient fait la main depuis quelques années dans l'opposition à la guerre en Irak. D'ailleurs, on lui attribue à Dean le premier mème politique de l'histoire d'Internet. Un cri qu'il a lancé après être arrivé 3e des primaires démocrates en Iowa. We're going to South Dakota, and Oregon, and Washington, and Michigan. Manifestement, il était hyper content du résultat. And then we're going to Washington DC to take back the White House. Yeah! Et ben voilà, ce cri est devenu le premier mème politique au monde. Mais à part ça, ça donne quoi, cette campagne de Ward Dean, politiquement?
Ward Dean va perdre en 2004 l'investiture aux primaires démocrates, mais en revanche, va à ce moment-là s'élaborer un peu toutes les techniques de campagne qui vont ensuite se professionnaliser et coaguler dans la campagne de 2008 pour, enfin de 2006-2007 pour faire accéder au pouvoir Obama à la Maison-Blanche en 2008.
Ok, là je vois la filiation américaine. Ward Dean, Obama. Mais bon, ce qui m'intéresse quand même, c'est le traité constitutionnel européen en France en 2005. Et même si tout ça est absolument passionnant, il me semble que ça nous en éloigne un petit peu. Donc, je demande à Benoît le rapport qu'il y a entre cette filiation américaine et notre histoire.
Le web politique à l'époque, c'est un tout petit milieu. Il y a très peu de gens qui s'y intéressent. C'est un mélange de geeks et de passionnés de politique. Et finalement, ils sont pas si nombreux à cette époque-là. À y voir en plus un phénomène puissant de, on l'espère en tout cas à l'époque, de renouvellement évidemment de la classe politique, de changement des pratiques, puis peut-être tout simplement de changement même parfois de la démocratie elle-même. Et donc nous, on va tous regarder ça. Et donc, fort de tout ça, je reviens en 2004, j'ai convaincu donc ma directrice de nous donner quelques moyens. En gros, deux, trois emplois consacrés uniquement à faire de la veille sur Internet.
Parenthèse. C'est intéressant cette description d'un petit monde qui s'intéresse à la politique, un petit monde qui scrute ce qui se fait dans tous les pays et qui voit un ferment du renouvellement démocratique. Faudrait voir combien en sont revenus de cet espoir aujourd'hui et combien, sans doute beaucoup moins nombreux, l'ont gardé. Bref, bon, j'en reviens à mon histoire de TCE. C'est marrant ça, hein ? Il faut donc un phénomène aussi nouveau que la campagne de Dean aux États-Unis pour que le SIG décide de faire un truc qui nous paraît aussi con que faire de la veille sur Internet. C'est dire d'où on partait, hein. Alors, c'est quoi faire de la veille sur Internet à l'époque ?
Ça voulait dire partir un peu de zéro, parce qu'à l'époque, on n'avait aucune méthodo. Donc, il a fallu inventer des outils, des méthodos, essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait compter les posts dans un forum, essayer de voir la révolution dans le temps, et essayer en fait de tirer des analyses intéressantes de ce qu'on appelait pas encore le big data, mais qui était déjà ça, en fait, et qui était déjà, pour le coup, existant dans le champ du commentaire politique.
Donc, pendant toute l'année 2004, Benoît et sa petite équipe commencent à expérimenter, à comparer les résultats qu'ils obtiennent avec ceux obtenus par le département des études, à s'apercevoir qu'en observant un forum, on voit aussi bien qu'avec un sondage qui coûte une fortune la manière dont se construisent les opinions politiques, car oui, quand les gens se sont mis à discuter sur Internet, ils ont parlé, notamment et beaucoup, de politique.
Et notre grande chance, évidemment, c'est qu'en fait, on a commencé à être prêts au moment où Jacques Chirac a décidé de lancer un référendum pour le traité constitutionnel européen.
Ah, nous y voilà. La campagne du référendum pour le traité constitutionnel européen. Bon, il faut se souvenir, fin octobre 2004, le traité constitutionnel européen est d'abord signé par les 25 chefs d'État et de gouvernement des pays membres. D'ailleurs, voilà comment c'est raconté dans le journal de France 3 et par son envoyé spécial à Rome, où avait lieu cette très solennelle signature.
L'histoire retient son souffle à nouveau. Ratification de la Constitution par tous les membres de la famille européenne.
C'est un texte de progrès économique et social. C'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle de l'Europe que le progrès social est déclaré comme indissociable du progrès économique. C'est également la première fois qu'on reconnaît le caractère irremplaçable des services publics.
Et maintenant, le plus dur reste à faire, la ratification du traité par les élus ou les peuples d'Europe. À tout seigneur, tout honneur, c'est l'Italie qui devrait ouvrir le bal.
Chaque pays, donc, a choisi sa manière de ratifier le traité. Jacques Chirac n'était pas obligé de choisir la voie référendaire, il aurait pu choisir la voie parlementaire, comme l'ont fait d'autres pays d'ailleurs. C'est après une consultation avec les partis politiques qu'il a fait ce choix. Alors, il paraît que Giscard a dit à ce moment-là « c'est une bonne idée, à condition que la réponse soit oui ». Il était marrant, Giscard. Ou visionnaire. Enfin, peut-être plus marrant que visionnaire. Bon, bref, la campagne commence. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Benoît se souvient si, à Matignon, c'était un souci de regarder ce qui se passe sur Internet ?
Non, c'était pas un souci. Je me souviens d'une réunion à l'Élysée, autour de Claude Chirac. Et je crois que c'était pour la préparation du référendum et de la campagne référendaire. Elle était là puisqu'elle était chargée de la communication du président. Et je me souviens très bien qu'à un moment donné, c'est vaguement tourné vers moi parce qu'il fallait quand même qu'il parle un peu de web. Et elle a dit, écoutez, le web aura sa place, mais à sa juste mesure, c'est-à-dire modeste.
Une visionnaire aussi, Claude Chirac. Donc, ce genre de remarque, c'est le quotidien de Benoît. Mais lui, il pensait vraiment qu'Internet allait jouer un rôle dans cette campagne ?
Moi, j'en étais convaincu, on en était tous convaincus que ça allait avoir un rôle. Mais jusque-là, en fait, il faut bien le reconnaître aussi, c'est que ça n'en avait pas un. Les audiences montaient. J'étais absolument convaincu sur le moyen terme que ça allait évidemment redevenir central. Mais il fallait pouvoir l'anticiper. Le problème, évidemment, c'est que on l'a pas beaucoup anticipé.
Alors, justement, qu'est-ce que le gouvernement et l'ensemble des partisans du oui, n'ont pas anticipé ?
Le oui au début de l'année 2005 est encore à 70%. Mais moi, ce que je commence à voir dès la fin de l'année 2004, qui était dans des proportions telles que j'ai commencé à faire des alertes assez dures, en disant, mais écoutez, ok, dans les sondages, vous dites qu'il a, le oui est à 70%, mais moi, sur les forums que je regarde au quotidien, qu'on mesure, on est dans un rapport de 90% des postes sont contre le traité constitutionnel européen. Donc, je veux dire, on est vraiment à front renversé. Alors, je veux bien que ce soit un repère d'activistes gauchistes ou souverainistes avant l'heure, mais là, c'est des proportions qui sont telles que je trouve ça plutôt inquiétant.
D'accord. Donc, dès la fin 2004, Benoît commence à alerter sa tutelle que sur Internet, ça ne se passe pas comme le disent les instituts de sondage. Mais alors, ça pose une question. Quelle était la stratégie numérique du gouvernement pour qu'elle pèse aussi peu sur Internet ?
Il faut bien reconnaître qu'ils ont quand même pris conscience qu'ils ne pouvaient pas simplement mettre en ligne un gros PDF du traité constitutionnel européen, même s'ils l'ont fait, mais que il faudrait quand même organiser des débats. Alors, ils ont diligenté un centre d'information sur l'Europe pour organiser ce forum, qui était regardé et scruté à la loupe par les directeurs de cabinet des ministres eux-mêmes. Et donc, il fallait absolument que, on veille à ce que les débats se tiennent bien. Et malheureusement, à ce moment-là, comme les débats en ligne se passaient mal, du coup, les forums du gouvernement qui étaient censés organiser le débat public ont commencé à être verrouillés. C'est-à-dire que quand on avait un poste qui était trop négatif, ils étaient censurés.
Là, évidemment, ce sont deux logiques qui s'affrontent. Benoît et ses équipes ont beau faire ce qu'ils peuvent pour expliquer que ce n'est pas la bonne stratégie, qu'on peut instaurer des règles, certes, mais qu'il faut qu'elles soient explicites, ça n'est pas recevable dans un monde politique où on n'est pas du tout habitué à ce genre d'interpellation. D'où la censure. Une censure d'ailleurs qui ne s'exerce pas à proprement parler sur le fond, il y a évidemment des posts anti-traités sur ces forums officiels. Mais dès que le ton est un peu véhément, dès que le contenu est considéré comme pas tout à fait juste, il est censuré. Alors quel est le résultat de cette stratégie gouvernementale ?
Le débat s'est déplacé. Et au lieu qu'il soit sur un endroit qui était censé être relativement neutre, ce qu'en fait d'ailleurs il était assez peu, il est allé où le débat ? Il est allé basculer dans la blogosphère, il a basculé ailleurs.
Autrement dit, le débat a basculé dans un espace où on débattait vraiment. C'est passionnant parce que ce déplacement, il est le produit de ce qui est à proprement parler un déficit démocratique. Parce que si on interdit la discussion, elle se déplace. La discussion, elle a toujours lieu. Et ça me fait penser à un truc, à ce qu'on a appelé sous la Russie soviétique les causeries de cuisine. C'était dans les cuisines que les gens, très surveillés partout ailleurs, discutaient de politique ou critiquaient le gouvernement parce que dans la Russie soviétique, malgré toutes les interdictions, on critiquait aussi le gouvernement. Ce que je veux dire par là, c'est que le débat politique a toujours lieu quelque part. Alors, bien sûr, la Russie soviétique, c'est incomparable avec la France du début des années 2000. Mais ce qui se passe en 2004-2005 manifeste quand même une forme de déficit démocratique en ligne au moins. Et la contradiction se déplace où on peut discuter, c'est-à-dire sur Internet. Mais Benoît veut tout de suite ajouter un autre phénomène.
Quand on allumait la télé, on entendait qui ? On entendait 80% de la classe politique était favorable au traité constitutionnel européen. Donc il n'y avait pas de débat. Donc les gens, du coup, ils ont commencé à se dire « mais on se moque de nous ». À la radio publique, à la télévision publique, partout, en fait. On n'entend que des gens qui sont favorables au traité constitutionnel européen. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les gens, de manière massive? Et là, c'était plus les geeks, c'était plus les activistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont mis à aller chercher l'information ailleurs.
Voilà, donc, à l'inadéquation de la stratégie numérique du gouvernement qui verrouille le débat en ligne, s'ajoute la quasi-unanimité pro-TCE qui s'ébat dans les médias. Bien sûr, dans les faits, c'est un peu moins caricatural parce qu'il y a quand même quelques débats dans les médias et que quelques personnalités politiques de premier ordre s'expriment contre le TCE. Qu'on se souvienne, Jean-Pierre Chevènement, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jean-Luc Mélenchon, Philippe de Villiers, Jean-Marie Le Pen, mais ils sont très très minoritaires, y compris dans les médias, qui eux aussi soutiennent le oui à grands coups d'éditoriaux enthousiastes dont il faut qu'on se souvienne aussi. Donc, Internet ne devient pas seulement le lieu d'une discussion publique qui n'existe pas ailleurs, mais aussi le lieu d'une information alternative. Parce qu'un doute s'installe progressivement dans la population. Un doute sur ce qui est raconté, un doute sur les raisons de ce quasi-unanimisme de la classe politique et des médias. Et qu'est-ce qui s'est passé quand les gens qui doutaient et ne trouvaient pas dans les médias traditionnels d'explications ou même de reflets à leurs doutes, que s'est-il passé quand ces gens se sont tournés vers le web pour trouver une autre information ? Je pose la question à Benoît.
Ils se sont retrouvés sur un Internet qui s'était déjà structuré, où les nonistes étaient extrêmement puissants, ils s'étaient déjà organisés, eux, depuis longtemps, et ils se sont retrouvés dans cette toile dans laquelle le débat était profondément noniste.
Alors justement, comment ce débat s'est-il structuré sur le web ? Évidemment, j'ai en tête la figure d'Étienne Chouard, qui est tout à fait centrale dans cette histoire, je pense. Étienne Chouard était un inconnu complet, c'était un professeur d'économie-gestion dans un lycée technique à Marseille, et il est devenu, en quelques semaines, un des référents des nonistes. Alors je demande à Benoît de me raconter cette histoire, l'histoire d'Étienne Chouard, mais de son point de vue de stratège politique.
Tout le problème de ce référendum, c'est qu'il était sur un texte qui est quand même très compliqué. Bon. Au lieu de faire une énorme pédagogie sur le sujet, on se dit qu'on peut faire l'économie du débat et que par ailleurs, c'est quand même un sujet tellement complexe qu'il ne faut pas rentrer dans les détails. Sauf que les gens, on leur propose un texte. Et bien, ils vont se dire, il faut le lire. On le trouve où? Alors, le gouvernement l'avait mis dans des formats qui étaient indigestes. Et qu'est-ce que va faire Étienne Chouard? Ben, il va faire l'exégèse. Alors, il va la faire d'ailleurs avec un œil presque candide. Il n'est pas constitutionnaliste, il n'est pas spécialiste des questions européennes, ça va d'ailleurs poser des problèmes après, mais c'est trop tard. Parce qu'il va être le premier, en fait, à faire une œuvre citoyenne, avec ses défauts. Hein. Mais il va la faire avec son honnêteté, et il va décortiquer et analyser le traité constitutionnel européen. Et le problème, bah, c'est qu'il est premier à faire, et que c'est lui qui va avoir l'audience principale. Je me souviens plus des chiffres, mais on parle de son fameux dossier de PDF à circuler, probablement, des estimations, on a beaucoup de mal, mais c'est probablement plus de 10 millions. Donc c'est gigantesque, gigantesque.
Étienne Chouard, donc, devient la référence, celui à partir duquel on discute. Il faut quand même mesurer le truc. Dans l'histoire, il me semble que c'est assez inédit. Dans un débat aussi cadenassé, c'est soudain un type isolé, sans capital social, sans capital économique, mais par un travail propulsé par ce médium low cost qu'est Internet, qui devient un centre. Quoi d'autre qu'Internet pourrait permettre ça ? Quoi qu'on pense des avis donnés à l'époque par Étienne Chouard et de ce qu'il est devenu d'ailleurs par la suite, c'est un événement majeur dans l'histoire politique récente. Pour quelqu'un comme Benoît, qui s'intéresse à la manière dont se fabrique l'opinion politique sur Internet, qu'est-ce que ça a posé comme nouvelle question ?
C'est la première fois qu'on a commencé à se dire, en fait, Internet est un territoire. Un territoire, il y a des autoroutes, il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a des hauteurs, il y a des... Voilà, c'est structuré, en fait. C'est pas flat, Internet. On peut être proche d'un contenu ou très éloigné d'un contenu. On peut avoir une densité de concentration de comme une ville, et puis au contraire, une ruralité informationnelle. Au fond, ces concepts-là, on les avait pas. Et il y a quelques personnes, aux États-Unis et RTGI à l'université de Compiègne, Guilhem Fouettilou, Franck Guitala, qui ont commencé à se dire, c'est comme ça qu'il faut regarder le web. Et donc, ils ont commencé à essayer de construire une carte. Et évidemment, pour eux, comme aux États-Unis, ça avait été le cas en 2004, le terrain de la campagne du traité constitutionnel européen a été un terrain de recherche scientifique et de regard sur le web politique absolument majeur.
Hyper intéressant, ça. Le débat est aussi l'occasion d'une théorisation du web et de la manière dont s'y organise la discussion. L'expérience dont parle Benoît, là, c'est un truc super important. Tout se passe dans un labo de l'Université de technologie de Compiègne où un linguiste, Franck Guitala, travaille avec des étudiants à cartographier le web du non au traité. Parmi ces étudiants, il y a quatre types, dont Guillaume Fouettilloux, que Benoît a cité, qui vont créer un an plus tard une boîte du nom de l'Influence, qui s'est spécialisée dans l'analyse du web social et dans la cartographie de ce qu'ils appellent les controverses. Et le travail de l'Influence, il a été super important, parce que quelqu'un comme Bruno Latour, par exemple, le grand sociologue et philosophe, l'a beaucoup utilisé. Tout ça, donc, ça naît autour de 2005. Et c'est pas complètement un hasard. Mais bon, là, je suis peut-être parti un peu loin. Bon, on revient à nos moutons. Qu'est-ce que ce travail de cartographie du web permet de comprendre de ce qui s'est passé pendant la campagne ?
D'abord, la carte du « oui » était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importante que la carte du « non », dans les proportions de 2/3, 1/3. Et encore une fois, ça se comprend. Les médias étaient fermés, on allait sur les nouveaux médias. Et puis, l'analyse qu'ils ont rajoutée, qui est passionnante, ça a été de montrer que, en fait, les deux réseaux avaient une densité différente. C'est-à-dire que autant le réseau du oui était un réseau qui était très ouvert, dans lequel il y avait peu de réseaux constitués autour du oui, et pour cause, il y avait plein de gens qui, au fond, votaient pour le traité constitutionnel européen, mais n'avaient pas envie de gouverner ensemble. Quand vous étiez au Parti socialiste, vous n'aviez pas envie de faire un lien vers l'UMP, et inversement, quand vous étiez un opposant de Jacques Chirac, vous n'aviez pas envie de faire un lien vers le site de l'Élysée, etc., etc. Donc en fait, le oui était décousu. C'était pas vraiment un réseau. Lorsque vous vous enfonciez dans un de ces sites internet, assez rapidement en réalité, vous pouviez vous retrouver dans une espèce de cul-de-sac informationnel. Alors que quand vous tombiez dans le camp du non, pour le coup, c'était hyper dense. Ils se reliaient entre eux. Et au fond, ils avaient trouvé une espèce d'alliance de circonstances, mais sur lequel ils jouaient tous à fond. Je me souviens de cette phrase très cynique, très terrible d'ailleurs, de Philippe de Villiers, qui avait dit « On a tous quelque chose contre le traité constitutionnel européen ». Voilà. Et bien cette phrase-là, elle a d'une certaine manière illustré le fait que ce réseau s'est tissé, que la toile du non-européen, elle était extrêmement dense. Et donc, quand vous étiez dedans, en fait, vous en sortiez pas.
Ce que montre ce travail de cartographie, c'est complètement central. Ça montre que le web n'est pas seulement question de quantité, il est aussi question de forme. Ne compte pas seulement le nombre des contenus, mais la manière dont ils sont organisés. Savoir créer un réseau dense, un réseau dont on ne sort pas, pour reprendre les mots de Benoît, c'est ça le signe de l'efficacité sur le web. Ça valait en 2005, ça vaut encore aujourd'hui. Mais bon, on est allé un peu vite là. Ce dont nous parle Benoît, c'est une objectivation après coup de ce qu'il a observé de manière assez empirique sur le moment. Je reviens donc au début 2005. Benoît est au cœur de la machine gouvernementale, ça on l'a compris, qui fait campagne à fond pour le oui, ça on l'a compris. Il voit vite que sur Internet, c'est le non qui est ultra dominant. Il lance des alertes, qu'est-ce qui se passe ?
Bon, au début, on regarde un peu avec intérêt, en se disant, tiens, peut-être que ça dit quelque chose, mais enfin, bon, tant qu'en fait, il y a que des bonnes nouvelles, on nous écoute pas. Ensuite, assez vite, ça commence à dégringoler. Hein. C'est-à-dire qu'on passe de 70 à 65%, et puis assez vite, ça s'effondre. Et donc là, on commence un peu plus à paniquer. Et ça a des conséquences, d'ailleurs, sur la communication gouvernementale, en tout cas, en ligne, puisque le fameux forum où les nonistes faisaient virer, bah, les règles de modération ont été largement assouplies et on a arrêté, en fait. Mais c'était trop tard.
Oui, bah parce que le forum a été déjà déserté, ça on le sait. Mais Benoît a passé du temps au début de la discussion à m'expliquer qu'il avait mis en place au SIG des outils pour faire de la veille. J'imagine donc qu'il a pu en tirer des conclusions et proposer au gouvernement des changements de cap un peu plus massifs que modifier les règles de modération du forum officiel. Alors là, Benoît acquiesce et il me raconte un truc assez dingue.
Ce qui a été plus intéressant, c'était l'analyse qualitative au fond des argumentaires de la campagne. Et là, j'ai commencé à les alerter de manière beaucoup plus puissante parce que j'avais tendance à penser que c'était quelque chose qui pouvait être modifié. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, la plupart des tenants du oui au traité constitutionnel européen, en fait, utilisaient les phrases lénifiantes pour défendre l'Europe. C'est normal, en fait. On avait oublié qu'il fallait la défendre. C'était une espèce de... Moi, j'ai voté pour. Mais je reconnais que le débat était quand même complètement fou. On disait aux gens, bah, il faut voter pour l'Europe parce que c'est bien.
C'est la paix.
Voilà. Merci. Parce que il y avait cet argument incroyable qui était l'Europe, c'est la paix. Voter contre le TCE, c'est voter pour la guerre. Et moi, je voyais sur les forums, ça s'enflammait à chaque fois qu'il y avait un homme politique qui disait cette phrase absurde. Mais c'était mais des threads, mais par centaines, où les gens disaient « Mais on se moque de nous. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comme si on votait non pour un traité constitutionnel, les Panzers vont repasser la Moselle. » Enfin, et franchement, ils avaient raison. On se foutait complètement de leur gueule à dire des phrases comme ça. Et donc, je me souviens, à un moment donné, d'avoir une réunion avec le directeur de cabinet de la ministre des Affaires européennes. Et du coup, je lui ai dit, mais est-ce que vous pouvez pas faire passer un message qu'il faut arrêter d'utiliser ce genre d'argumentaire? Il m'a dit, écoute, vous avez sûrement raison. Il faudrait qu'on change tout ça. Mais c'est comme ça qu'on défend l'Europe depuis des années. Et ça va être très compliqué de changer notre ligne.
Là aussi se joue une question démocratique. La communication gouvernementale ne prend pas en compte les questions que pose le traité aux Français. Alors que Benoît, lui, il voit ces questions. C'est là qu'on comprend qu'Internet change quelque chose à la manière dont se formule le débat politique. Parce que ce que des citoyens recevaient auparavant passivement, ils peuvent, avec Internet, le questionner activement. Et d'une certaine manière, ils peuvent mutualiser leurs questionnements, les faire apparaître, les partager. Et à ça, en 2005, les politiques sont incapables de s'adapter. Bon, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment Benoît vit cette période. Quand sa hiérarchie commence à entendre ses alertes, les réponses apportées sont faibles et inadaptées. Mais est-ce que ça l'énerve ? Est-ce que ça le désespère ?
En fait, le vrai drame, c'est plutôt la schizophrénie entre mon opinion politique sur le traité, j'étais pour le traité, et le fait que j'étais d'accord avec l'analyse qu'en faisaient, au fond, les opposants. C'est-à-dire que je remerciais tous les jours les opposants de faire le travail démocratique que les défenseurs du traité ne faisaient pas.
Donc voilà, le travail démocratique, en l'occurrence, il est sur Internet, effectué par les partisans du non. Et ce travail, il peut même être admiré par quelqu'un qui défend le traité et est payé par le gouvernement pour organiser sa défense sur Internet. Il faut avouer que c'est une situation qui est assez incongrue. Mais alors, quand il dit qu'il admire ce travail, Benoît, à part ses vertus démocratiques, est-ce qu'il en admire des pratiques ? Eh ben ouais, parce qu'il y a, selon lui, aussi des usages qui s'inventent.
C'est le début des PowerPoint, où il y a des analyses qui, en tout genre, qui circulent. Et on est d'ailleurs sur un débat public qui est très difficile à analyser. On l'a retrouvé d'ailleurs avec les boucles et avec WhatsApp ces dernières années. Hein. Les plateformes, de cette manière, ont mis sous la lumière les conversations qu'on avait dans le débat public. Mais à l'époque, il y a les forums, certes, où ça peut se voir, même si c'est un peu éclaté, il faut tous les suivre, enfin, on peut en avoir les moyens. Mais ceux qui ont lieu par messagerie, on ne sait pas très bien ce qui se passe.
Alors ça, je n'y avais pas pensé. Ce web politique de 2005, il fait usage des outils à disposition, dont le mail. Et ce qui circule par mail, on ne peut pas l'observer de l'extérieur. Or, c'est une caractéristique qu'on a retrouvée récemment, comme le raconte Benoît, avec les boucles WhatsApp ou Telegram, dans lesquelles le débat politique se déroule sous les radars. Contrairement à ce qui s'était étalé, et continue à s'étaler d'ailleurs, hein, plus publiquement, dans les réseaux sociaux. Et d'ailleurs récemment, ça n'a pas été sans problème, hein, notamment au Brésil, où ces boucles ont largement été utilisées par les partisans de Bolsonaro pour faire circuler leur propagande, ce qui a obligé d'ailleurs WhatsApp à revoir ses règles et à restreindre les groupes à 200 participants et à rendre compliqué, enfin un peu plus compliqué, le transfert d'un message d'un groupe à un autre. Donc, même si beaucoup de choses se passent sous les radars, Benoît, lui, continue d'alerter. Mais pendant ce temps-là, le oui baisse dans les sondages. Est-ce qu'il se souvient, Benoît, du moment où les politiques ont commencé à comprendre qu'ils auraient dû écouter ces alertes ?
En fait, au bout d'un moment, c'était la panique. Hein. On multiplie les meetings, on change les gens, on les envoie davantage sur le terrain. Voilà, mais c'était bien trop tard pour faire quoi que ce soit. Et je pense qu'ils ont tous senti à ce moment-là qu'en fait, ils se prenaient une vague et que c'était fini.
Ah ouais, pour la beauté du drame, j'aurais aimé que Benoît me raconte une épiphanie, un moment où on le convoque en lui disant « Et vous avez eu raison, pardon de ne pas vous avoir écouté, dites-nous ce qu'il faut faire ». Mais non, ça a été beaucoup plus diffus jusqu'au 29 mai, jour du vote.
Il est 21h, 59 minutes et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non.
Jean-Pierre Raffarin est remercié. Deux jours plus tard, Dominique de Villepin est nommé Premier ministre. Et lui, il choisit une nouvelle ministre déléguée aux Affaires européennes. Elle vient d'Élysée, c'est Catherine Colonna. Eh ouais, Catherine Colonna, notre nouvelle ministre des Affaires étrangères et de l'Europe d'ailleurs. Bon, bref, juste après les résultats, Catherine Colonna convoque Benoît.
J'arrive dans son bureau, elle me dit « Bonjour, je voulais vous voir, il paraît que c'est vous qui avez annoncé la victoire du non avant tout le monde. » Alors lui, écoutez, je sais pas si je l'ai annoncé, mais en tout cas, je l'ai vu monter probablement avant tout le monde. Elle me dit, je veux comprendre ce qui s'est passé. Vous avez 2 heures pour m'expliquer tout ce qui s'est passé. Elle m'a beaucoup écouté. Et puis, elle m'a dit, bah, écoutez, je veux vous revoir dans 15 jours et vous me dites ce qu'on aurait dû faire. Et qu'on mette en place les outils de veille, la structuration des débats, les plateformes internet qu'il faudrait qu'on fasse pour que le jour où se repassera un débat de la sorte, ça se reproduise pas de la même manière.
Et alors?
Eh ben, elle m'a nommé à la tête d'un centre d'information sur l'Europe qui avait commis ce forum où personne n'allait, en me disant, bah, vous recrutez une équipe et puis vous retissez la toile pro-européenne. Ce que j'ai fait pendant un an.
Donc, du côté de l'État, il y a un effet de ce qui s'est passé pendant cette période. On voit bien qu'entre le début de la campagne et la mission que Catherine Colonna donne à Benoît, il y a un monde. Une compréhension beaucoup plus importante de ce qu'est le web et de son rôle politique. Tout ça s'est passé en même pas un an. Donc, oui, le référendum de 2005 est un moment central dans le rapport des politiques français au web. Mais j'aurais aimé savoir comment Benoît, lui, le comprend, ça.
Ce qui est sûr, c'est que les hommes politiques, pour la première fois de leur vie, ont pris le web politique au sérieux. Tout simplement parce que, ils lui ont fait subir une défaite cuisante. c'est la première campagne où, d'une certaine manière, le net a gagné. Parce que je te rappelle en 2004 que Howard Dean n'a même pas eu la primaire démocrate. C'est la première fois, d'une certaine manière, que la société civile surinvestit sur Internet, rejoint par des militants, rejoint par beaucoup de citoyens qui sont déçus par les médias traditionnels, coagulent, font masse et structurent le débat, en fait, en échappant complètement, on va dire, au corps intermédiaire, aux médias traditionnels. Et c'est ça qui va être un coup de semonce pour toute la classe politique française.
Ok, mais moi j'ai une autre hypothèse. Je me demande si ce moment n'est pas aussi celui où les politiques français constituent le web en espace qui leur est par essence hostile. C'est quelque chose qu'on sent hein, encore aujourd'hui dans beaucoup de discours politiques sur le web. Est-ce que cette défiance, cette impression que donnent les politiques de toujours se trouver dans un terrain hostile, est-ce qu'elle vient pas de ce qui s'est passé en 2005 ? Je pose la question à Benoît.
Je suis pas sûr qu'ils l'aient vu comme un endroit particulièrement hostile. Je pense qu'ils l'ont vu d'abord comme un endroit dont ils s'étaient pas assez occupés et dont ils n'avaient même pas imaginé que ça puisse complètement redistribuer les codes du débat public. Parce que c'est ça aussi. C'est pas simplement ce qui s'est passé sur Internet. On a inventé des usages. Les débats, c'est pas les mêmes. La conversation, c'est pas la même. L'analyse des contenus sont pas les mêmes. Et tout ça, ça préfigurait en réalité une grande réorganisation de la sphère politico-médiatique. Et en tout cas, c'en était les premières prémices. Et donc, d'une certaine manière, là où je pense que ça n'a pas été vu nécessairement uniquement comme quelque chose d'hostile, et je suis payé pour le savoir, c'est que cette histoire de 2005 va indirectement donner des armes à Ségolène Royal pour à la fois être la candidate de la gauche, mais aussi faire un peu comme Howard Dean 3 ans avant, récupérer une génération dont je suis d'activistes web politiques, en construisant d'ailleurs une offre politique à l'époque très innovante, qui se voulait être de la démocratie participative, qui était quand même une des premières expériences qu'on avait pu mener en France à cette échelle.
Ségolène Royal, il faudra qu'on y revienne. Mais je trouve Benoît un peu gentil dans son analyse. Moi, ça me semble assez dingue qu'il ait fallu ce tremblement de terre du référendum et de la défaite pour que cette prise de conscience ait lieu.
Aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord pour dire le numérique, c'est une révolution, c'est une transformation générale du monde, de l'économie, de la société, et probablement à une échelle de l'histoire de manière assez considérable. Hein. Bernard Stiegler, un grand philosophe, il disait c'est probablement dans l'histoire et à l'échelle de l'humanité aussi important que le passage de la culture orale à la culture écrite. Je peux te dire qu'en 2005, on était très 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 loin dans la classe politique de le penser. Il va avoir lieu ce point de bascule, le web devient quelque chose d'important, qui certes a été hostile, mais qui, si on arrive assez bien à le comprendre, et ce sera le cas de Ségolène Royal, peut tout à fait être mis à son profit.
Bon, je sens que Benoît a envie de parler de Ségolène Royal. Alors, la jonction, il me l'a raconté déjà, il rencontre Ségolène Royal parce qu'il est militant, et aussi parce qu'avec d'autres, il essaye de sensibiliser la gauche avec le combat très dur que mènent à l'époque les majors contre le partage gratuit de morceaux de musique, qui a lieu massivement parmi les jeunes internautes. Et il se trouve que Ségolène Royal, à la différence de la plupart des gens du PS, l'écoute. Et elle accepte de signer un moratoire sur les amendes faramineuses auxquelles sont condamnés les adolescents pour avoir partagé quelques fichiers MP3. Et cette prise de position de Ségolène Royal, elle draine à elle toute une génération d'activistes numériques, pas forcément proches du PS d'ailleurs, mais qui voient en elle quelqu'un qui a l'air de comprendre quelque chose à ce qui se passe. Du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que la campagne de Ségolène Royal en 2007 doit à ce qui s'est passé en 2005 ?
Énormément, parce que l'idée justement, et c'est la grande force de Ségolène, c'est son coup de génie à ce moment-là, c'est de se dire le débat qui s'est organisé contre les partis de gouvernement, contre le traité constitutionnel en 2005, les mêmes technologies, les mêmes usages, peut-être même une partie des mêmes gens, pourraient être organisés et structurés pour co-construire, au fond, un programme politique. Elle était d'autant plus bien positionnée pour le faire qu'elle n'était pas vue comme une figure prééminente du Parti socialiste. Et au contraire, elle a fait ça une force en disant « Mais moi, le programme, je sais pas tout, je vais le faire avec les gens, on va organiser des forums. » Puis ce truc-là a fini par me tomber entre les mains.
Mais ça foire.
Pourquoi ça foire ? On gagne les primaires, nous.
mais elle n'est pas élue.
Non, mais faut regarder toute l'histoire. On gagne les primaires de 2006.
Vas-y, raconte-la différemment, alors.
Elle bat des sacrés éléphants. Elle bat des SK. Elle bat Fabius. Et elle le fait en disant, je vais écouter des gens comme Étienne Chouard, des citoyens, on va demander leur avis aux gens.
Elle les écoutait vraiment ?
Oui, elle les écoutait vraiment. Ouais. Enfin, en tout cas, on faisait les notes, on faisait les remontées, et on avait mis en place des méthodologies. Et moi, en tout cas, à titre personnel et dans nos équipes, tout ce qui avait été mal fait en 2005 a été pour nous un contre-exemple et une leçon absolue de ce qu'il fallait au contraire faire pour la campagne de 2006.
Bon, il faudrait entrer dans les détails de ce qui s'est fait pendant cette campagne, hein, en termes d'animation de forums, de règles de modération aussi, modération a posteriori avec des règles explicitées. Mais bon, ce serait une autre histoire. Alors juste pour le plaisir, j'ai retrouvé un truc marrant, un jour où Ségolène Royal a convié les internautes à un débat participatif sur Second Life.
Bonjour, je suis heureuse d'inaugurer le 748e comité des heures d'avenir sur Second Life. J'inaugure donc ce magnifique bâtiment qui vient d'être construit.
Ça, c'est trop marrant cet extrait.
Avec les normes haute qualité environnementale, c'est-à-dire les mêmes que celles du lycée de Kyoto que j'ai lancé dans la région Poitou-Charentes et dans lequel vont se dérouler les mêmes débats participatifs, les mêmes débats sur le projet présidentiel. Donc venez-y nombreux et vous m'y retrouverez.
Considérons donc avec Benoît que la campagne de Ségolène Royal a été une grande réussite. Bah bon, pas de bol, elle perd contre Nicolas Sarkozy. Là, il faut quand même s'arrêter une minute. Moi, j'avais pas mal suivi les campagnes numériques à l'époque, et il y avait un contraste très fort entre Ségolène Royal, qui avait prolongé après la primaire cette idée de la démocratie participative et d'un usage du web bottom-up, comme on dit, hein. Bref, une campagne qui, comme Benoît l'a dit, essayait de ne pas reproduire les erreurs de 2005. Et puis, en face, il y avait la campagne de Nicolas Sarkozy, qui était pas mal axée numérique aussi, mais dans un tout autre esprit, complètement top-down. Tout venait du haut, tout était hyper contrôlé par les équipes de campagne, images comprises. Bref, pas du tout un esprit participatif et web, pas du tout post-2005. Et on sait bien qu'il a emporté. Je demande à Benoît son analyse.
Je pense qu'il faut séparer les primaires des présidentielles. Moi, j'ai toujours pensé que ça avait été une erreur de refaire un débat participatif pour les présidentielles. Je pense que le fait d'avoir fait une campagne à ce point participative a crédité un peu trop l'idée que finalement, elle n'était pas capable d'avoir elle-même un programme. Donc, on peut aussi imaginer qu'il y a un temps d'écoute, mais qu'un président, c'est aussi quelqu'un à un moment donné qui, après avoir écouté, décide et assume.
C'est intéressant parce que là, on touche, je pense, à un truc essentiel qui est constitutif de la vie politique française. Arc-bouté autour de l'élection du président et de cette fonction quasi monarchique, cette vie politique française entérine une incompatibilité avec la logique profonde de l'Internet, horizontale et participatif. Bon, il y a sans doute beaucoup d'autres raisons pour lesquelles Nicolas Sarkozy l'a emporté, mais le trop de participatif dans la campagne royale a peut-être joué un rôle. Bon, cela dit, il y a quand même un fait glorieux à cette campagne, hein. On raconte, on dit que Ségolène Royal aurait inspiré Barack Obama. Il y aurait donc un lien direct entre la campagne pour le référendum de 2005 et la victoire de Barack Obama en 2008, ce qui serait quand même assez dingue. Alors je demande à Benoît si c'est vrai.
Non, je crois pas qu'elle ait inspiré Obama, non. Je sais plus très bien pourquoi est-ce qu'elle a sorti ça.
Ah, c'est elle qui l'a dit?
Oui, c'est elle qui l'a dit, ouais, c'est pas moi. C'est pas moi. Okay. Moi, ça m'a valu pas mal de rigolade, quoi, mais non, je pense que Ségolène, à un moment donné, a fait peut-être un contresens. D'abord, moi, j'ai jamais caché que mes deux sources d'inspiration dans la campagne de Désir d'avenir, ça avait été le traité constitutionnel européen, mais aussi la campagne de Howard Dean et plus généralement, on va dire, le web politique américain, que je regardais énormément. À tel point d'ailleurs que j'ai fait venir deux personnes. À l'époque d'ailleurs, ça a été un secret absolu parce que Ségolène avait très peur, probablement d'ailleurs à raison, que l'on s'imagine qu'on avait des techniques marketing américaines qui étaient importées. En réalité, j'avais deux personnes qui avaient été dans la campagne de Howard Dean, hein, qui sont venues m'aider, en particulier sur des techniques un peu spéciales de mailing, qui étaient des techniques qu'on maîtrisait pas très très bien. Et donc, ils nous ont un peu aidés là-dessus. Et qui, par ailleurs, ensuite, sont retournés dans les équipes d'Obama. Donc, je pense que c'est peut-être le lien qu'elle a fait. Mais Obama, en réalité, fait une campagne très peu participative. Obama fait assez peu l'organisation de débats. En fait, la vraie force d'Obama, c'est d'avoir structurer et organiser sa campagne de manière décentralisée à partir d'Internet et pour faire un usage massif de techniques très traditionnelles qui est le fameux porte-à-porte.
En fait, l'usage que les stratèges américains font du web, c'est surtout un usage organisationnel. Quadriller les espaces, rationaliser le passage des équipes dans les lieux d'habitation, etc. En fait, c'est du campagne building, ce dont Obama était familier parce que ça avait été son métier avant, mais à la mode numérique. Donc, Ségolène Royal n'a pas inspiré Obama, que ce soit dit pour l'histoire. En revanche, Benoît, lui, y voit dans cette campagne de 2007 un leg à l'histoire qui a sans doute été essentiel.
On a un peu effleuré quelque chose qui, d'ailleurs, va ensuite très très bien fonctionner, presque trop d'ailleurs, dans les années qui vont suivre. C'est comment est-ce que, à partir d'Internet, on arrive en fait à organiser un mouvement politique en quelques mois. Quand on est à l'heure du papier, du téléphone ou même du fax, structurer un parti politique, Mitterrand disait, il faut 10 ans. Mais pour des raisons aussi pratiques, c'est que aller dans toutes les fédérations, les structurer, aller les voir, trouver des gens, recruter, etc., c'est compliqué en fait. À partir du moment où en fait c'est des gens qui viennent à vous et on peut les structurer à partir d'Internet, moi je me souviens très bien que Désir d'avenir, en 6 mois, on a des comités locaux dans à peu près tous les départements. Et ça, c'est Internet comme outil d'organisation. Obama va faire ça, mais à une échelle industrielle magistrale. Et par ailleurs, depuis, les hommes politiques ont compris qu'ils pouvaient créer leur parti politique très facilement. En Marche, il y a beaucoup de quelque chose de Désir d'avenir qui aurait réussi. Aujourd'hui, le ticket d'entrée pour créer un mouvement politique grâce à Internet s'est effondré. Mais comme beaucoup d'autres choses, en fait. C'est un lieu des intermédiations pour rencontrer son public très facilement et le structurer, l'organiser.
Alors ça, c'est passionnant. Je ne m'étais jamais formulé les choses aussi clairement que ne le fait Benoît. La manière dont peut apparaître en quelques mois un parti politique, et ce que ça bouleverse dans la vie politique, on l'a vu avec Macron, c'est une conséquence directe de la place prise par Internet à la fois comme espace de diffusion des idées et comme outil d'organisation. Et ça, donc, même si ça n'est pas propre à la France, ça prend ses racines en France dans ce qui s'est passé en 2005. Il y a comme une généalogie, des pratiques ont été expérimentées, ont été éprouvées, se sont transmises. On doit beaucoup à 2005 du côté de l'usage d'Internet par le monde politique. Mais je me demande si on ne doit pas autre chose à 2005 du côté de l'opinion cette fois-ci. Est-ce qu'on ne doit pas à cette campagne, à son résultat, l'idée que la vraie information se trouve sur Internet et non pas dans les médias traditionnels ou dans les mots des politiques, qui sont toujours suspects, qui deviennent toujours suspects?
Absolument. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées, qui ont été un peu embryonnaires de phénomènes en fait qui vont se généraliser. Par exemple, les fake news. À un moment donné, a circulé l'idée que le traité constitutionnel européen allait en fait remettre en cause le droit à l'avortement.
Quel souvenir de ça.
Ouais, mais ça a été une fake news énorme. Et quand il y a des foyers allumés un peu partout, mais que vous-même, en fait, vous n'êtes pas présent dans ces débats, comment est-ce que tu fais? Ils n'avaient pas de relais. Leur forum, il n'y avait personne qui allait dessus. Alors évidemment, on pouvait envoyer un pauvre militant ou même un ministre aller sur un forum et poster. Mais non, vraiment, je vous assure, c'est une fake news, c'est complètement faux. Jamais le TCE n'en mettra en cause le droit à l'avortement. Si, si, c'était fini.
Évidemment, on n'appelait pas encore ça comme ça, mais en effet, il y avait déjà des fake news et des gens qui, manifestement, savaient en profiter pour faire avancer leurs idées. Et d'ailleurs, c'était quoi le mécanisme à l'œuvre ?
Les gens ont envie de se réapproprier un débat, ils sont plus sceptiques, ils pensent effectivement se faire une opinion en confrontant des contenus, en les découvrant, en ayant aussi le goût, on est dans une période, alors ça va pas plaire aux défendants des nonistes, je dis pas que les nonistes sont à réduire à ça, loin de là, mais il y a eu évidemment un phénomène de complotisme qui s'est d'une certaine manière cristallisé autour du nom, il y a eu des phénomènes de complotisme.
C'est vachement intéressant ça, parce que ça rappelle le lien fondamental qui existe entre démocratie et complotisme. Les spécialistes de la question l'expliquent souvent. Le complotisme moderne est né avec la démocratie, il est lié à la démocratie. D'abord, il apparaît après la Révolution française, quand est instaurée la délégation de pouvoir et qu'on se fait représenter par d'autres. Parce que tant qu'on est dans un régime monarchique ou totalitaire, c'est de fait une minuscule élite qui gouverne comme elle veut et souvent en secret. D'une certaine manière, être complotiste est une attitude raisonnable à ce moment-là, parce que le pouvoir fonctionne de fait comme un complot. Mais avec la démocratie, naît le soupçon que derrière la délégation de pouvoir transparente a priori, on élit des gens pour nous représenter, il y a en fait une confiscation obscure du pouvoir, des intérêts cachés qui agissent contre nous. Là naît la logique complotiste telle qu'on la connaît. Et elle est complètement liée à la démocratie. Parce que dès qu'on s'aperçoit que la démocratie est effectivement bafouée, et ça arrive, le complotisme se renforce mécaniquement. Parce que sont apportées, à ce moment-là, les preuves qu'il y a des intérêts cachés ou des forces obscures. Tout ça pour dire qu'il est parfaitement cohérent que 2005 soit aussi un moment où les complotistes s'esbaudissent sur Internet. Parce qu'il est aussi un moment où Internet joue un vrai rôle démocratique, et les deux vont ensemble, de pair. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé ensuite a donné un argument de plus à ceux qui pensaient que ce référendum n'avait pour autre but que de nous faire avaler la pilule européenne sans qu'on discute. Parce que suite au vote français, et à celui d'autres pays d'ailleurs, le traité constitutionnel n'a pas été ratifié. Alors qu'à Saint-Tienne, 3 ans plus tard, le traité de Lisbonne a été approuvé par le Conseil de l'Europe. Il reprenait à peu près les mêmes dispositions que le précédent, mais en se passant cette fois-ci de la ratification état par état. Comme si tout ce qui s'était passé en 2005 n'avait jamais eu lieu. Et ça, encore aujourd'hui, c'est un des ferments de l'esprit anti-Europe qui est si fort dans nos pays. Voilà, donc, 2005 est définitivement central. Mais pour terminer, j'ai une dernière question à poser à Benoît. Qu'est-ce qu'il regrette de ne pas avoir fait, ou d'avoir fait d'ailleurs, à cette époque, qui aurait pu changer la donne et faire que les politiques agissent différemment ?
Je regrette de ne pas avoir été plus convaincant. Il aurait fallu que je gueule peut-être plus. En même temps, faut aussi être honnête, j'avais pas non plus prévu ce qui s'est passé. Je veux dire, je suis pas un devin. Moi, j'ai vu un phénomène à ce moment-là. J'espérais, mais au fond, je savais pas que ce serait à ce moment-là que ça allait se produire. Moi, j'étais convaincu que les choses pouvaient se passer là, mais qu'elles se déroulent de cette manière-là, évidemment, je l'avais pas prévu. Et au moment où je l'ai constaté, c'était sûrement déjà beaucoup trop tard, en fait, pour les faire changer. Parce que c'était une question de mindset, c'est une question de culture, en fait, qu'ils avaient pas.
Ouais, sans doute que ça aussi, ça a changé. Bon, au final, je suis pas déçu. Internet a joué un rôle essentiel dans cette campagne référendaire et cette campagne est essentielle pour comprendre la manière dont se constitue le web politique français. Et aussi notre rapport au web d'une certaine manière. Bon, après, il faudrait activer les préventions d'usage. Hein. À quelques années près, il s'est passé à peu près la même chose dans tous les pays démocratiques et à chaque fois, Internet a été le cristallisateur d'autres phénomènes, notamment d'équilibre politique au sein de ces pays, etc. Bref, il ne faudrait pas non plus tout voir par le petit trou de la lorgnette. Bon, cela dit, en raccompagnant Benoît, je me suis dit que 2005, c'était quand même une bonne lorgnette. Merci beaucoup à Benoît Thiolin. À la prise de son, c'était Thomas Langlin. Au mixage, Benjamin Orgeret. Réalisation, Fanny Beauillon. C'était Le Code a changé, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.